Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Et je suis très heureuse de vous retrouver, chers auditeurs de BBC Afrique et Africa Radio, pour votre émission de débat. Bonjour à toutes et à tous, l'équipe est au complet. Et donc, bonjour Liliane Niacha.
Bonjour, cher Saint-Ish Mantar Tomté. Et si je m'en tiens à l'énergie que je ressens dans votre voix, j'en conclus que vous avez passé une très bonne semaine, Saint-Ish.
Oui,
d'accord.
Oui, je l'avoue.
Voilà, on va commencer donc avec notre premier sujet. Désormais totalement blanchi, Charles Blé Goudé, ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, peut-il se relancer et se repositionner dans l'arène politique ivoirienne ? Cette semaine, le président Alassane Ouattara a donné son feu vert au retour des deux hommes en Côte d'Ivoire.
Les ambitions de diriger un jour son pays sont toujours aussi présentes, il l'a redit, mais l'ancien ministre Blé Goudé dit vouloir travailler à la réconciliation de la Côte d'Ivoire d'abord. Comment le fera-t-il dans un pays gouverné aujourd'hui par ses adversaires d'hier et alors qu'une condamnation de 20 ans de prison a été prononcée contre lui en Côte d'Ivoire ?
Les violences avec mort d'homme enregistrées cette semaine au Bénin à quelques jours de la présidentielle vont-elles définitivement faire perdre au pays son image de modèle de démocratie qu'il peine depuis quelques années à conserver? Le scrutin du 11 avril, pour lequel le président sortant, Patrice Talon, part favori, est selon l'opposition joué d'avance.
Et en tout cas, le scrutin met à rude épreuve la cohésion nationale au Bénin. Mais le gouvernement béninois parle plutôt de l'autorité retrouvée et réaffirmée, Liliane.
Et une autre présidentielle Saint-Tiche à haut risque est toujours le 11 avril. C'est au Tchad où le président sortant, le maréchal Idriss Déby Itno, brigue un sixième mandat. Certains opposants et une partie de la société civile estiment que c'est le mandat de trop.
Et dans l'attention, des opposants soupçonnés de terrorisme sont arrêtés et la sécurité renforcée dans le pays. La présidentielle 2021 au Tchad marquera-t-elle un tournant dans l'histoire politique de ce pays ? Les analyses et commentaires de nos invités à suivre, Liliane.
Saint-Tiche, l'invité ou le grand témoin de cette semaine est Charles Blé Goudé. Monsieur Blé Goudé, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes ancien ministre ivoirien de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi et ancien leader des jeunes patriotes. Vous intervenez de La Haye aux Pays-Bas. Vous avez 49 ans, titulaire d'une licence d'anglais et d'un master en gestion et prévention des conflits à Manchester, en Angleterre. En 90, vous avez adhéré à la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, puis succédé à un certain Guillaume Soro au poste de secrétaire général. Entre 1994 et 1999, M. Blé Goudé, vous faites des allées et venues en prison pour votre engagement dans la lutte syndicale et estudiantine. En 2001, vous créez le Congrès panafricain des jeunes et des patriotes, COGEP, mouvement qui lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Vous êtes également fondateur de l'Alliance des jeunes patriotes pour le sursaut national qui avait organisé, il faut le préciser, plusieurs manifestations pendant la rébellion pour exiger le départ des forces étrangères, notamment française, mais aussi l'indépendance économique de la Côte d'Ivoire. En mars 2014, vous êtes donc transféré à la CPI, la Cour pénale internationale, pour votre rôle supposé dans la crise post-électorale de 2010-2011 et donc définitivement acquitté depuis une semaine. Vous serez notre grand témoin, M. Blé Goudé. Deux journalistes sont avec nous. André Dossa, rédacteur en chef de la chaîne Canal 3 à Cotonou, au Bénin. Bonjour.
Bonjour, madame. Bonjour, M. Blé Goudé.
Et en ligne de Bonn, en Allemagne, Eric Topona, journaliste à la radio Deutsche Welle. Monsieur Topona, bonjour.
Oui, bonjour Liliane, bonjour Saint-Tiche, bonjour Blé Goudé et bonjour à toutes et à tous.
Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Saint-Tiche, à vous, on commence avec notre premier sujet, la Côte d'Ivoire.
Et plus rien ne semble s'opposer au retour de Charles Blé Goudé, tout comme celui de l'ex-président Laurent Gbagbo, après la confirmation de leur acquittement par la Cour pénale internationale à La Haye pour des accusations de crimes contre l'humanité. Le président ivoirien Alassane Ouattara a donné dans la semaine son feu vert pour qu'il rentre au pays. La déclaration du chef de l'État ivoirien a été commentée par beaucoup comme un acte salutaire pour la réconciliation nationale. Pourtant, dans la réalité, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont sous le coup d'une condamnation par la justice ivoirienne à 20 ans de prison pour l'affaire dite du CAS de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en ce qui concerne l'ex-président Gbagbo, et pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans le cas de l'ancien ministre Blé Goudé. Alors, les interrogations ont porté, bien sûr, sur l'application de ces peines à leur retour au pays. Et le nouveau porte-parole du gouvernement ivoirien a répondu, je cite, qu'il serait cynique de payer les frais de voyage de quelqu'un juste pour le mettre derrière les barreaux, aux fins de citation. Monsieur Charles Blé-Goudé, vous avez demandé, juste après la confirmation de votre acquittement par la CPI, vous avez demandé l'amnistie à l'État ivoirien. Est-ce que vous avez depuis reçu des signes qui montreraient que votre demande pourrait être agréée?
Merci. Merci à vous. Merci à BC, à Afrique. Et voilà, radio avec laquelle je suis depuis hier, tant de son service anglais, son service français et aujourd'hui avec vous. Mais c'est un plaisir réel pour moi de parler aux auditeurs de votre radio. Merci beaucoup. Alors, j'ai demandé, juste après la confirmation de mon acquittement définitif, que les autorités de mon pays, notamment le chef de l'État ivoirien, puissent faire un geste de décrispation en notre faveur, le président Gbagbo et moi. Et puis, depuis le dernier Conseil des ministres, en date du 7 avril 2021, il a affirmé à la face du monde, à travers une déclaration publique, que nous sommes libres désormais de rentrer chez nous quand nous le souhaitons. Je pense que, pour moi, cette décision est salutaire et est à saluer. Et puis, il y a le principe qui est acquis, comme le chef d'État l'a dit.
Mais est-ce que pour vous, cela signifie que votre amnistie, est-ce que cela signifie que vous obtiendrez cette amnistie? Parce qu'il a déclaré que vous rentrez, effectivement, mais il ne s'est pas prononcé, par exemple, sur les peines prononcées contre vous par la justice.
Je considère, en tout cas pour ma part, que ces questions vont faire partie des discussions qui vont certainement avoir lieu entre une équipe que le chef de l'État ivoirien voudra bien dégager et nous, nos équipes, pour pouvoir dégager ce que j'ai appelé les modalités de notre retour. Je parle un peu en syndicaliste. Le principe est acquis. Il va falloir maintenant dégager les modalités pratiques de notre retour. Je suppose que c'est dans ce dossier-là que nous allons mettre à l'ordre du jour la question de la condamnation que vous évoquez.
Alors, le débat est en partenariat avec BBC Afrique. Donc, pour cette fois-ci, nous sommes deux sur le débat. Liliane, à vous.
Oui, Monsieur Blé-Goudé, vous n'avez eu de cesse de demander pardon aux personnes que vous auriez, dites-vous, offensées dans le cadre de la crise post-électorale qui vous a donc conduit à la CPI. Mais vous attendez que le président ivoirien vous permette, peut-être à travers une grâce, de retourner en toute sécurité dans votre pays. Mais est-ce que vous ne craignez pas tout de même des actes de vengeance vous concernant, puisque vous allez rentrer en Côte d'Ivoire pas dans les mêmes conditions que l'ancien président Laurent Gbagbo?
Pourquoi vous dites que je ne vais pas rentrer dans les mêmes conditions que le président Laurent Gbagbo?
Je m'en tiens aux déclarations faites jusqu'à présent. On n'a pas encore du nouveau du président Ouattara.
Oh oui, je veux dire que moi, je suis venu ici sous fond d'une crise, sur laquelle je ne vais pas revenir ici. Je suis un soutien au président Laurent Gbagbo. Il est écrit noir sur blanc dans le document contenant les charges contre moi que je suis ici en tant que bras droit du président Laurent Gbagbo. On a même parlé de bras séculier. Donc, je suis venu ici pour les mêmes raisons. Et si ces mêmes raisons ont été évalué par la justice internationale qui nous acquitte et que le président ivoirien donne son accord pour le retour du président Laurent Gbagbo et moi-même, vous savez que je l'ai déjà déclaré, je vais repartir sur la base du rassemblement. Maintenant, vous pouvez même pas être Charles Blé-Goudé et dans votre quartier, quelqu'un peut vouloir vous faire du mal. Voilà, il y a des gens même qui n'ont jamais participé à la politique et qui sont agressés même dans leur quartier par des bandits. Cela peut arriver. Mais si c'est concernant la crise ivoirienne, je le répète encore, il y a un temps pour se battre et il y a un temps pour faire la paix. Nous sommes dans un pays et assurer la sécurité des biens et des personnes est un rôle régalien qui revient à l'État. Je suppose, et je compte sur l'État pour que l'État puisse prendre ses responsabilités et jouer son rôle.
Est-ce que vous resteriez à l'étranger si vous n'avez pas la grâce que vous souhaitez et espérez du président Ouattara?
Ce sont des questions que je ne voudrais pas régler sur les antennes d'une radio, parce que vous parlez de sécurité. Voyez-vous, je pense que quand le moment du départ va arriver, ces questions-là seront mises sur la table et nous en discuterons. La question du retour de Charles Blécouté n'est pas une question simplement administrative, une question ordinaire. C'est une question hautement politique, madame. Mais c'est pourquoi je me garde de commenter ce genre d'aspect-là qui concerne ma sécurité.
Senti, si vous permettez, juste pour préciser, vous dites que la question est politique.
Mais... politique.
D'accord. Que dites-vous? Oui. Toujours concernant votre sécurité, M. Blégoudé, l'association des victimes de la crise de 2010-2011 n'en démord pas et promet, je cite, de vous conduire avec l'ex-président à la MACA, là où, dit cette association, est votre place. Elle appelle d'ailleurs le président ivoirien à leur rendre justice. Est-ce que tout cela ne vous inquiète-t-il pas sérieusement? Ou alors, malgré tout, vous restez serein en vous disant si la décision politique forte que vous attendez est prise, vous pouvez retourner dans votre pays en toute sérénité?
Merci. Vous savez, quand quelqu'un qui se présente comme une victime tient de tels propos, au lieu d'avoir peur, en tant qu'acteur politique, et leader de la Côte d'Ivoire aussi, leader politique. Je considère que, c'est vrai, les armes sont prises dans notre pays, mais il y a encore d'autres aspects de la crise à régler. Tout cela est inclus dans les derniers aspects de la crise que nous devons encore régler. Pour moi, M. Issiaka Diaby, car c'est de lui qu'il s'agit, président d'un groupe de victimes, dit ne pas être content. Il a des raisons de ne pas être content, parce que c'est une victime de cette crise. Pour moi, il faut que l'État de Côte d'Ivoire puisse maintenant faire en sorte de mettre en place un mécanisme qui puisse apaiser les victimes de la crise. Il faut systématiser, pour moi, le soutien aux victimes et faire en sorte que ces victimes ne soient pas aussi instrumentalisées. Vous voyez ? Voilà, ce sont les victimes d'une crise qui a fait pour notre pays. Moi, je pense que je ne veux pas m'attaquer à la personne de Issiaka Diaby ou m'attaquer à des victimes, mais c'est un cri de cœur que ces victimes lancent.
Mais M. Blégoudé, quand vous dites mettre en place un mécanisme, s'il vous plaît.
Vous allez me laisser finir, s'il vous plaît. Vous allez me laisser finir, je vous en prie.
Allez-y.
C'est un cri de cœur que ces victimes lancent. Et moi, je pense qu'il faut apporter une réponse à ce cri de cœur.
Quel genre de réponse, selon vous ?
Voilà comment je conçois les choses.
Quel genre de mécanisme, justement, il faudrait mettre en place, vu que, par exemple, M. Diaby, dont vous parlez, dit qu'il faut que la justice, les décisions de la justice vous concernant, soient appliquées. Quel autre mécanisme vous entrevoyez ?
Mais, tout à l'heure, vous parlez de l'acquittement définitif de Charles Blé. N'est-ce pas?
À la CPI, oui.
Je suis passé par trois étapes majeures à la CPI. Pour les crimes les plus graves, relatifs à la crise qui a secoué mon pays, dont la crise dont on est en train de parler. L'État de la Côte d'Ivoire dit ne pas être en mesure de me juger à l'époque et me remet donc à la CPI. La chambre préliminaire de la CPI juge de ce que ces charges-là peuvent être suffisantes pour que je puisse faire l'objet d'un procès. Confirme donc les charges et me remet à la chambre de première instance. Nous sommes en 2014, madame. 6 mois après la confirmation des charges, la chambre de première instance prend en main le dossier et le joint à celui du président Gbagbo. Nous faisons l'objet des procédures pendant de longues années. Nous sommes donc acquittés le 15 janvier de l'an 2019. Le procureur fait appel et l'affaire est donc remise au niveau de la chambre d'appel qui est la dernière instance de la Cour pénale internationale. deux ans après, donc en 2021, le 31 mars, la chambre d'appel confirme notre acquittement. Ce sont des juges que moi je ne connais pas. Et je suppose qu'on ne prend pas n'importe quel juge pour le mettre au sein de la Cour pénale internationale. Tout le monde a suivi le procès. Et je suis acquitté. C'est le même crime. Donc c'est de cela qu'il s'agit. La justice ne consiste pas à condamner seulement. La justice vous condamne quand elle vous trouve coupable. Mais elle vous libère aussi quand elle vous trouve innocent et qu'elle vous blanchit. Dans mon cas, j'ai été déclaré innocent et blanchi. Ce n'est pas un cadeau qu'on m'a fait. On ne m'a pas accordé une liberté provisoire. On ne m'a pas donné une liberté conditionnelle parce que je serais malade ou parce que j'ai trop duré ou parce que je me suis bien comporté en prison. Les faits ont été jugés. 82 témoins ont défilé à la barre et j'ai été reconnu coupable. J'ai été reconnu innocent. Maintenant, la réalité est là. Il y a des victimes dans notre pays. Il y a une crise dans notre pays. Il y a eu des morts dans notre pays. Je pense que le procureur de la CPI doit continuer son travail jusqu'à ce que cette situation soit clarifiée.
Donc vous voulez dire que pour vous, le dossier n'est pas clos, il faut absolument rendre justice aux victimes. La CPI doit enquêter pour que justice soit rendue aux victimes.
La CPI doit enquêter pour que justice soit rendue aux victimes. On ne se bat pas seul. Un premier groupe est venu ici, dans le dossier qu'on a appelé à la CPI Côte d'Ivoire 1. Et je peux vous dire qu'ici, il y a un autre dossier qu'on appelle Côte d'Ivoire 2. C'est-à-dire l'autre camp. Donc la CPI doit continuer ses enquêtes jusqu'à ce que justice soit rendue. Mais moi, je ne veux pas me mettre dans un débat de ping-pong avec les victimes. Parce que je respecte les victimes, je respecte leur douleur. Je suis un acteur politique. J'ai été amené devant la justice internationale.
Donc quand vous dites que quand la CPI doit poursuivre, c'est-à-dire que doit chercher aussi du côté de l'autre camp qui était en guerre avec le pouvoir Gbagbo, c'est-à-dire celui de Alassane Ouattara.
Ça, ce n'est pas mon rôle, madame. Ça, ce n'est pas mon rôle. Moi, je ne suis pas procureur. Je ne suis pas un procureur. Je suis un acteur majeur de la politique en Côte d'Ivoire et j'ai été conduit devant la Cour pénale internationale qui me suspectait de crimes contre l'humanité. J'ai été jugé innocent par toutes les chambres de la CPI. Maintenant, faut-il poursuivre l'autre camp? Ce n'est pas moi qui le décide. Chacun a son travail.
Mais c'est ce qu'on croit comprendre dans ce que vous dites.
Au bout de sa logique.
Alors, quand vous entend parler, Monsieur Blégoudé, depuis la confirmation de votre acquittement, vous avez demandé pardon, vous avez parlé de réconciliation. Est-ce que vous-même, vous avez pardonné à vos adversaires politiques d'hier? Vous avez relaté tout à l'heure le long processus de votre procès.
Madame, voyez-vous, quand on parle de privation de liberté, quand on parle de torture, quand on parle de ce qu'un prisonnier peut subir, il faut avoir perdu la liberté pour comprendre son importance. Pour apprécier la valeur d'un verre d'eau, il faut avoir traversé un désert. Moi, 2 ans en exil au Ghana, 14 mois en détention à la DST, sans une seule visite, enfermé 24 heures sur 24 dans une cellule où une lumière est fixée dans mes yeux, aujourd'hui je ne peux même plus lire, madame. Je suis obligé de porter des verres pharmaceutiques pour que je puisse lire. J'ai subi des dommages. On m'a transporté ensuite dans un pays que je ne connais même pas, où je suis arrivé en plein froid polaire, je suis arrivé en hiver ici, je suis arrivé et j'y ai passé 7 années de ma vie.
Merci beaucoup.
Loin de mon village, loin de mon pays, loin de mon continent.
Merci, monsieur Blégoudé.
Pendant 7 années.
Voilà, on va marquer une pause et puis on écoutera tout à l'heure nos confrères Saint-Tich.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Suite du débat BBC Afrique, Africa Radio, notre grand témoin cette semaine est Charles Blégoudé, ancien ministre ivoirien de la jeunesse. Deux journalistes participent également à cette émission. André Dossa, rédacteur en chef de la chaîne Canal 3 à Cotonou au Bénin, et Eric Topona de la Deutsche Welle à Bonn en Allemagne. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission quand vous le souhaiterez sur bbcafrique.com et africaradio.com. Et partagez vos avis sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/débat BBC Africa Radio. Saint-Tiche, on va à présent avoir un mot sur la Côte d'Ivoire avec nos invités, avec nos confrères.
Oui, avec nos confrères. On va écouter nos confrères, Liliane, oui, sur le dossier Côte d'Ivoire. André Dossa.
Allô?
Oui, André, votre première analyse sur déjà la déclaration du président Ouattara qui dit que Charles Blégoudé et Laurent Gbagbo peuvent rentrer quand ils le souhaitent. Selon vous, est-ce que cela ouvre réellement la voie pour le retour de ces deux hommes politiques ?
Je pense que c'est un premier pas, un pas important pour la suite pour la réconciliation et la cohésion espérée en Côte d'Ivoire. Parce qu'après cette décision de la haie, il était normal que l'on puisse avoir un geste de la part du pouvoir ivoirien, notamment le président Ouattara, et lorsqu'il dit, il montre son ouverture, sa disposition à favoriser le retour au pays de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ancien ministre Blégoudé, je crois qu'il marque, il pose un premier pas et montre ainsi son ouverture. Sauf que j'estime sans doute que pour vraiment que ce geste soit vraiment complet et que ça favorise vraiment la paix en Côte d'Ivoire, c'est qu'il faut aller au-delà de cette ouverture, au-delà de cette déclaration, cette disposition à la laisser entrer au pays, quand on sait, par exemple, que les deux personnalités sont encore sous le coup d'un certain nombre de poursuites au plan local, hein, en Côte d'Ivoire, où ça a été évoqué dans votre échange avec l'ancien ministre Blégoudé. Mmh. On se demande, est-ce que quelque part, ce n'est pas plutôt politique, une démarche politique de la part du président Ouattara, de montrer, n'est-ce pas, aux yeux de la communauté internationale, qu'il est ouvert, qu'il permet leur retour, et après peut-être enclencher au plan local.
Vous voulez dire peut-être que pour vous, les autorités ivoiriennes, et notamment le président Ouattara, ne fait pas preuve de bonne foi, parce qu'il faut dire que la condamnation en 2019 de M. Blégoudé intervient alors que on s'acheminait justement vers cet acquittement en première instance par la CPI.
En effet, oui, beaucoup d'observateurs avaient vu cela comme une sorte d'anticipation sur cet acquittement que l'on semblait entrevoir à l'époque. C'est pourquoi j'estime qu'il aurait été peut-être plus élégant, en tout cas si vraiment la volonté du président ivoirien, c'est de permettre effectivement un retour au pays de ces deux personnalités, et surtout que ce retour au pays puisse favoriser la paix dans le pays, la réconciliation entre les Ivoiriens. Je crois qu'il aurait été loisible pour lui de montrer qu'une fois rentré au pays, il pouvait bénéficier d'une grâce, parce que cette déclaration du président ivoirien, de mon point de vue, n'a pas valeur de grâce présidentielle.
Mmh. Merci beaucoup. Merci. On va écouter Saint-Tiche.
Eric. Oui, Eric.
Eric
Topona.
Allô? Bon, on va retourner à notre invité. Il semble qu'Éric ne nous entende pas. Monsieur Blégoudé, vous avez déclaré plusieurs choses. Hein. J'ai subi des dommages. La CPI doit enquêter jusqu'à ce que justice soit rendue aux victimes. Mais je voudrais que vous répondiez, s'il vous plaît, d'abord très rapidement sur la question des dommages. Est-ce que vous allez demander réparation à la CPI? C'est ce que vous dites?
Je voulais d'abord dire, je précise d'abord que j'ai perdu 7 années de ma vie ici.
Oui, M. Blégoudé, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps et on va bientôt passer au second sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement quelle est votre démarche allant dans le sens de la réparation, des réparations dont vous parlez?
Je vais donc aborder cette question avec mes avocats, pour être plus précis avec vous, comme vous n'avez pas assez de temps.
Et alors,
c'est une question que mes avocats et moi, nous allons étudier. Voilà.
D'accord. Alors moi, je voudrais vous entendre quand même sur votre retour en Côte d'Ivoire. Si ce retour se fait, comment vous allez vous positionner dans l'arène politique ? vous continuerez ce que vous avez commencé, j'entends par là, à soutenir le FPI pro-Gbagbo, ou vous envisagez un rapprochement avec l'autre camp?
Quel camp?
Ben le camp en face.
Pourquoi pensez-vous que moi je vais passer toute ma vie à soutenir l'un ou l'autre camp? Je suis un acteur politique, je ne suis pas né pour soutenir les autres.
Donc vous allez vous affranchir tant du RHDP que du FPI, tant du pouvoir que de l'opposition.
Bien sûr que j'ai un parti politique qui est le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, dont je suis le président. J'ai une vision pour la Côte d'Ivoire. J'ai 49 ans. Voilà. Et je veux que la politique se fasse autrement en Côte d'Ivoire. Mais quand je rentre en Côte d'Ivoire, je l'ai déjà dit, le plus important d'abord, c'est la paix. Comment je peux œuvrer pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire?
Et la réconciliation.
Le jour où il y aura une élection en Côte d'Ivoire, si mes collaborateurs et moi, nous l'estimons, nous allons candidater. Mais là n'est pas la question pour le moment. Mais je ne peux plus, à cet âge-là, me comporter comme un soutien.
Monsieur Blégoudé, vous avez insisté sur la nécessité de rendre justice aux victimes. Quel est votre avis sur l'ouverture du procès du massacre de Douekoué dans l'ouest de la Côte d'Ivoire? Certains responsables du FPI affirment que c'est une stratégie du pouvoir de couper l'herbe sous le pied de la CPI pour éviter un éventuel transfert des supposés responsables à la CPI. Mais,
madame, moi je dis que je ne suis pas un commentateur de la vie politique en Côte d'Ivoire. Je suis un acteur politique. Et je le répète encore, moi je ne suis pas un procureur. Tout le monde a vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La justice, dit-on, doit faire son travail. Pourquoi moi j'ai été transféré ici? Donc je laisse la justice faire son travail.
Mais sur le procès, quel est votre avis?
Voilà. Mon avis est que tôt ou tard, il fallait y arriver. Il faut ouvrir ce dossier-là.
Donc cela exclut l'implication de la CPI, puisqu'il y a un procès en cours en Côte d'Ivoire.
Un procès suspendu depuis.
Oui. Monsieur Blégoudé.
En ce qui concerne la CPI, je vous dis qu'ici à la CPI, il y a le dossier Côte d'Ivoire 1 et il y a le dossier Côte d'Ivoire 2. Le dossier Côte d'Ivoire 2, il sera certainement ouvert pour ne pas qu'il puisse trahir un secret. Ça fait 7 ans que moi je suis ici.
C'est-à-dire qu'il sera ouvert à la CPI ou faut-il se contenter de la procédure ouverte en Côte d'Ivoire, M. Blégoudé?
Je vous en prie.
Oui, j'ai dit, ce procès 2 dont vous parlez doit être devant la CPI ou faut-il se contenter du procès en cours en Côte d'Ivoire dans le massacre de Douekoué?
Mais je vous parle de la CPI, moi je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Je dis, ici, à la CPI, il y a un dossier Côte d'Ivoire 2 qui est ouvert. D'autant que le dossier Côte d'Ivoire 1 vient d'être fermé, et le dossier Côte d'Ivoire 2 va certainement être ouvert. Je vous prends l'exemple de ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. Moi, j'étais en prison avec une partie des belligérants. Lorsque le dossier a été clos, que beaucoup ont été condamnés, d'autres l'accès. Mais la deuxième équipe a commencé à être arrêtée, à être interpellée. La CPI a sa manière de fonctionner. Mais de dehors, on a un autre regard. Moi, je pense qu'il y a un dossier ici, qu'on appelle Côte d'Ivoire 2, et je puis vous dire que les gens seront même beaucoup plus surpris que ce qu'ils pensent.
Merci beaucoup, M. Blékoudé. Nous avons Eric que nous avons récupéré. Nous allons prendre l'analyse de Eric sur cette actualité. Eric?
Très brièvement,
oui,
Eric.
Voilà. Désolé, la ligne avait lâché tout à l'heure. Bon, je pense que je n'ai pas d'avis particulier à donner par rapport à une décision de justice. Je ne fais que prendre acte, comme tout le monde, de la décision prise donc par la Cour pénale internationale. Maintenant, dans un souci d'apaisement, je suis un Africain. J'ai suivi un peu tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu comme événement. Depuis le début des années 2000, je pense que la décision du président Ouattara de donner son feu vert pour le retour au pays de Charles Bégoudé et de Laurent Gbagbo est à saluer. Maintenant, il faudrait que cette volonté politique puisse aller au-delà, c'est-à-dire une grâce présidentielle ou une amnistie, c'est selon. c'est un pouvoir discrétionnaire donc qui revient au président Ouattara. Il faudrait vraiment aller au-delà pour espérer donc décrisper le climat politique national et favoriser la vraie réconciliation. Merci. Et une épée de Damoclès plane aussi sur la tête donc de M. Legoudé et Laurent Gbagbo. Donc la condamnation liée à la casse donc de au casse de la BCAO. Il faudrait aussi qu'un acte politique vienne peut-être effacer.
Merci beaucoup. Vous souhaitez qu'il y ait une grâce pour leur permettre de rentrer en toute sécurité. Saint-Tiche, je suis désolée, on n'a pas vraiment, on a largement débordé le temps. Prochain sujet.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Notre grand témoin cette semaine est Charles Blégoudé, ancien ministre ivoirien de la Jeunesse. Deux journalistes sont avec nous. André Dossa, rédacteur en chef de la chaîne béninoise Canal 3 à Cotonou, au Bénin, et le journaliste tchadien Eric Topano de Radio Deutsche Welle à Bonn, en Allemagne, est également avec nous. Et nous allons passer au Bénin. Le scrutin présidentiel de dimanche prochain est-il joué d'avance? C'est ce qu'affirment en tout cas certains opposants, alors que du côté du pouvoir, on assure que l'élection est ouverte et sera transparente. Ce dimanche 11 avril, les Béninois désignent le duo qui va diriger le pays pendant les 5 années à venir. 3 duos vont à la conquête donc du pouvoir dans un contexte tendu. En début de semaine, des manifestations à l'appel de l'opposition ont été enregistrées dans plusieurs localités pour dénoncer l'absence des principaux candidats de l'opposition à cette élection, mais aussi protester contre la prolongation du mandat du président Talon, lequel a expiré le 5 avril. L'opposition l'invite à démissionner. Une personne a été tuée dans ces tensions à Savé, dans le centre du pays. Je commence avec vous, notre confrère André, qui est à Cotonou. Fallait-il s'attendre à ces violences? Et du coup, est-ce que toutes les conditions d'une élection sereine et transparente sont véritablement réunies?
La première question, s'il fallait s'attendre à ces manifestations que l'on observe aujourd'hui depuis le 5, je dirais oui, parce que beaucoup d'acteurs politiques d'opposition ont annoncé, en tout cas n'ont pas caché leur intention de faire en sorte de mobiliser derrière eux les populations, en tout cas pour ceux qui croient en eux, pour signifier au président en exercice la fin de son mandat le 5 avril, conformément à la constitution du 11 décembre 1990, laquelle constitution a été révisée l'année dernière, ils ne reconnaissent pas cette révision. Ils ont d'emblée décidé de ne pas reconnaître cette révision opérée par l'Assemblée nationale. Alors donc, effectivement, compte tenu de les différentes annonces qui ont eu lieu, on était en droit de s'attendre à ces violences. Mais dans quelle proportion, avec quelle ampleur, ça c'était difficile à envisager. Aujourd'hui, on constate qu'il y a eu des mots d'ordre qui ont été lancés par certains acteurs politiques, notamment à l'étranger, et qui ont été suivis par certains citoyens. Et au nombre de ceux qui manifestent aujourd'hui, le constat évident aussi est de souligner que beaucoup de manifestants ne sont pas forcément des Béninois. Il a été constaté dans le rang de personnes interpellées par les forces de sécurité et de défense que certains manifestants proviennent de pays limitrophes, sans doute qui ont été mobilisés à cet effet.
Mais alors, André, je m'excuse. Le parti d'opposition, les démocrates, a regretté la tournure, compris les manifestations. Ils ont affirmé que les manifestations devaient être pacifiques, selon le secrétaire général. En réalité, eux-mêmes ont été débordés par leurs éléments, leurs militants.
Oui, ce positionnement des démocrates, c'est déjà d'assurer ce qui se passe. Et après, quitte à s'éloigner de certains aspects des manifestations qui se produisent depuis le 5 avril. Le Parti démocrate estime que ce qui était prévu, manifestations pacifiques qui ont dégénéré. Peut-être qu'il y a des acteurs halogènes, peut-être, je le dis, en mettant assez de réserve, halogènes et qui sont étrangers au parti, les démocrates, qui se sont infiltrés à ces manifestations. J'ai dit qu'il y a eu des étrangers qu'on a notés dans le rang de ceux qui manifestent, parce que lorsqu'on dit qu'il s'agit de manifestations pacifiques, on ne peut pas retrouver des manifestants munis d'armes à feu, d'armes de fusils artisanaux ou d'armes blanches. Je crois que ce n'est pas définition une manifestation pacifique ne se déroule pas avec ces instruments-là. Mais c'est pourtant ce qui a été constaté.
Alors, la première question de Liliane avait
justement,
deux volets. Oui. Si vous pouvez répondre à la seconde, oui.
Est-ce
au second
que,
volet.
Du coup, il y a des menaces de tension sur les élections de dimanche.
Les événements, vus de l'extérieur, on a le sentiment que le Bénin est déjà au bord de la guerre, ce n'est pas le cas. Il y a des localités, effectivement, où les manifestations ont eu lieu, où on a pu noter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un mort. Il y a un chasseur qui, ma foi, dans les échanges avec les forces de l'ordre, a été abattu, mais les forces de l'ordre et de défense sont à pied d'eux pour ramener le calme. Est-ce que ça, c'est de nature à empêcher la poursuite du processus électoral? Je crois que non, le processus électoral se poursuit très bien.
Non, je ne parlais pas de poursuite, je parlais des tensions dimanche prochain, parce que la température est montée. Oui.
J'allais en venir. Est-ce qu'au regard de ce qui s'est passé cette semaine, il faut craindre, n'est-ce pas, que le déroulement normal du scrutin le dimanche prochain soit hypothéqué? Je crois que c'est difficile aujourd'hui de dire si oui ou non ça va se passer. Toujours est-il que le spectre de violence continuera de planer sur le déroulement du scrutin. Tout dépendra peut-être de la capacité des forces de l'ordre à maintenir le calme, à maintenir le calme dans les localités où ces manifestations ont eu lieu avec une certaine ampleur.
On va écouter notre confrère et ensuite notre invité.
Eric Topona, qui connaît assez bien aussi le Bénin. Eric?
Oui, en effet, je connais très bien le Bénin. Je suis un peu déçu par la tournure que prend les événements actuellement au Bénin, parce que bon, jusqu'à un passé récent, c'était quand même un pays qui était cité en exemple pour son modèle de gouvernance politique. Mais il faut remonter un peu à 2 ans et demi, lorsque le président Talon a initié des réformes politiques et institutionnelles qui avaient été saluées par l'ensemble des acteurs politiques, mais ces réformes avaient été adoptées sans l'adhésion de tout le monde. C'est ce qui a causé donc, qui a débouché sur ces conséquences fâcheuses sur l'avenir du pays. Une élection présidentielle ne peut pas se tenir sans la participation de toutes les grandes formations politiques.
D'où donc ces tensions, cette situation qui a alimenté les tensions.
Exclure déjà à travers ces réformes certaines formations, ça, ces conséquences politiques qu'on observe actuellement.
Mais est-ce que ces violences vont entacher la crédibilité du scrutin, même si on ne sait pas si il y aura tension ou pas, Eric?
Bon, je ne pense pas que la gravité de ces violences va entacher donc le scrutin de dimanche. Mais attention, il y a un sentiment régionaliste, communautariste qui est en train de germer, parce que les manifestations violentes ont lieu à Savès, c'est dans le centre et un peu au nord. Et vous savez que la plupart des opposants qui sont en exil sont issus de cette partie du pays. L'ancien président Thomas Boni est lui aussi issu de cette partie du pays. Et je pense que il est atteindre une sorte de communautarisation donc de ce conflit, mais de ces incidents, de ces violences.
Merci beaucoup, Eric. Monsieur Charles Blégoudet?
Oui.
Alors, oui, ce scrutin présidentiel au Bénin et toute cette violence préélectorale, qu'est-ce que cela vous inspire pour un pays qui était présenté comme un modèle de démocratie quand même?
Cela pose un problème. Un problème... Voilà, une thématique sur laquelle on doit réfléchir à 100 fois. Les élections et les violences en Afrique. Les élections et les arrestations en Afrique. L'annonce d'une élection ou l'approche d'une élection dans notre continent, malheureusement, sur notre continent, malheureusement, ça rime toujours à l'annonce d'une guerre. On parle des risques. Nulle part en Europe, quand une date d'élection approche, on parle des risques. Pourquoi sur notre continent, chaque fois qu'on parle d'élection, on doit parler de violence, d'arrestation, de soupçons de terroristes? Moi, ça me pose un réel problème. Le Bénin est un exemple que nous tous, on en vient depuis 90. Ils ont su faire, ce pays a su faire la transition. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est dans la tête de nos leaders africains? Quand ils sont dans l'opposition, ils sont les grandes théories de démocratie. Une fois au pouvoir, ils font pire que ceux qui combattaient. Cela doit appeler même à un colloque.
Et vous, quelle est votre réponse, votre hypothèse sur cette situation que vous décriez, c'est-à-dire le fait que l'élection rime avec risque élevé de tension en Afrique, notamment dans l'espace francophone?
Respectons nos lois, respectons nos règles. Comprendre qu'on vient à la politique pour servir pendant un moment et partir. Savez-vous combien de présidents la France a connus en respectant ces 5 ans, en respectant ces règles, pendant que nous, sur notre continent, la longévité des pouvoirs sur les dirigeants des pays ont le même âge que des enfants qui aujourd'hui étaient nés et peuvent même être des doctorants aujourd'hui. Ça fait honte que des gens confondent leur personne et le pouvoir qui pourtant est impersonnel.
Merci.
Voilà ce que je pense.
Merci. Saint-Tiche, cela nous permet de parler d'une autre élection à la même date et c'est le Tchad.
C'est le Tchad. Oui. Je dirais que M. Blegoudé a planté le décor et le contexte pour ce sujet. Mais alors, dans les dernières informations à l'heure où nous enregistrons, la tension est montée d'un cran entre les deux camps, donc le parti au pouvoir, le MPS et ses alliés. Et puis de l'autre côté, il y a l'opposition politique ainsi que le collectif d'action citoyenne. Le ministère de l'Intérieur du Tchad a annoncé l'arrestation de plusieurs personnes accusées, je cite, d'avoir planifié l'attaque du siège de la commission électorale. Le contexte, bien sûr, on le connaît tous. Le maréchal Idriss Déby Itno, après 30 ans au pouvoir, est candidat à un sixième mandat lors de ce scrutin de dimanche prochain, enfin de ce dimanche 11 avril. Et l'opposition, bien sûr, avec en tête Saleh Kebzabo, l'opposant traditionnel qui avait déposé sa candidature, avait même été validé, mais s'est retiré du scrutin pour, dit-il, dénoncer les conditions dans lesquelles ce scrutin se tient. Et puis nous avons également l'autre partie de l'opposition très en vue actuellement, les transformateurs de Massra Succès. Et autre information à ajouter dans le camp de cette opposition, les syndicats et d'autres organisations de la société civile qui, elles aussi, eux aussi ont appelé à boycotter le scrutin de ce 11 avril.
Eric, nous allons d'ailleurs à manifester Saint-Tiche samedi et dimanche.
À manifester samedi et dimanche. Alors, nous y allons avec Eric Topona, journaliste tchadien qui officie à la Deutsche Welle à Bonn. Eric, le ministère de la Sécurité, je le disais, a déclaré avoir interpellé un certain nombre de personnes qui planifiaient d'attaquer la commission électorale. Une version, bien sûr, que l'opposition refute, puisqu'elle parle de volonté de museler l'opposition. Est-ce que, selon vous, les deux versions sont plausibles?
Bon, je pense que je m'y attendais, hein. Je m'attendais vraiment à cette situation parce que le pouvoir tchadien était un peu, et l'est toujours, hein, aux abois, hein, à l'approche donc de la présidentielle de dimanche. Il est vrai, la coalition Wokitama, qui comprend donc la plupart des formations politiques de l'opposition et de la société civile, constitue un réel danger pour le pouvoir. Donc il fallait, coûte que coûte, essayer d'arrêter donc les principaux leaders pour empêcher qu'ils puissent mettre en exécution la série de plans qu'ils avaient ficelés. Et je pense que, connaissant les membres, hein, les acteurs de ce mouvement, ils ne sont pas des terroristes. Ils ne vont pas aller commettre des actes de vandalisme. Ils ne veulent que qu'exprimer leur point de vue.
Mais il y a eu des appels quand même à des actions sur le terrain dans des bureaux de vote qui ont été lancés.
Oui, mais cela ne veut pas forcément dire qu'il y aura des actes de vandalisme. Hein. Ce sont des manifestations pacifiques, ils appellent boycott actif. Il faudrait plutôt peut-être que le gouvernement dépêche ou déploie des forces de l'ordre pour encadrer ces manifestations. Et vous savez, Saint-Tiche, qu'au Tchad, à chaque fois que les organisations de l'opposition et les acteurs de la société civile veulent organiser des manifestations pacifiques, ils sont systématiquement réprimés. C'est un droit constitutionnel. Il faut laisser les gens exprimer leur point de vue. Et vous savez que cette élection n'en est pas une parce que la plupart des principaux leaders ou les principaux candidats ont retiré leur candidature, leur dossier, parce que les conditions de la tenue donc de ce scrutin ne sont pas réunies et le gouvernement devait plutôt faire profil bas, essayer de calmer le jeu pour que ce scrutin se tienne dans les bonnes conditions. Mais à l'allure où les choses vont, je pense que ce scrutin sera tout sauf une élection.
Merci Eric. Liliane ?
Oui, M. Blegoudé, là encore, vous parliez du cas du Bénin, on assiste également à des risques élevés de violence et de tension. Regarde des éléments de contexte que Saint-Tiche a donné tout à l'heure et confirmé par Eric Topona. Dans ces conditions, finalement, à quoi sert la participation de l'opposition à de tels scrutins ?
Moi, je pense que j'ai posé le problème. Cet état d'esprit qui anime les dirigeants africains. africains qui font honte à notre continent, incapables d'organiser une élection de manière transparente, moi, ça me pose un problème. Dès l'instant où le sujet principal me pose un problème, le reste constitue des détails pour moi et des conséquences objectives pour moi qui en découlent. Donc, que l'opposition participe ou pas, est-ce que les dirigeants vont à des élections pour se faire nommer en prenant pour prétexte une élection dans des urnes alors que les résultats sont déjà connus? Voilà ce à quoi on insiste en Afrique.
Donc pour vous, au Tchad, la réélection de M. Déby pour un sixième mandat ne fait pas l'ombre d'un doute.
C'est rien de nouveau en Afrique. C'est ça qui est même la règle, on dirait. Voilà. Non, quand je ne serai plus là, le pays va connaître un désastre. Mais comme si c'était la seule intelligence de ce continent. C'est voilà comment nos dirigeants réfléchissent.
Merci, Monsieur Blégoudé. André Dossa.
Oui, je pense qu'il faut un peu relativiser les choses. Au Bénin, nous ne sommes pas dans le cas, par exemple, d'une confiscation de pouvoir, d'un pouvoir qui traficote la constitution pour s'éterniser au pouvoir ici. Je dirais plutôt nous avons des problèmes de caprice de démocrate, c'est-à-dire on va à une réforme, tout le monde est d'accord, mais on divise, les avis divergent sur la méthode. Mais par contre, au Tchad, et comme dans l'ensemble des autres pays africains, c'est des chefs d'État qui font tout pour se maintenir au pouvoir, qui voient des générations se succéder dans leur pays sans jamais quitter le pouvoir et toujours rivaliser d'imagination pour s'éterniser. Je pense que face à cela, et d'ailleurs avant de continuer, quand j'écoute M. Blégoudé, il me fait penser entre autres à un certain président guinéen, Alpha Condé, quand il était dans l'opposition, il développait les meilleures théories possibles de démocratie, ainsi de suite. Mais quand il vient au pouvoir, c'est autre chose qu'on observe.
Et excusez-moi, André, on peut retoquer la même chose. Hein. Vous dites que vous excluez le Bénin. C'est vrai, le problème n'est pas le même. Mais Patrice Talon avait lui aussi promis de faire un seul mandat. Finalement, il n'a pas tenu parole. Et il y a quand même de grosses polémiques autour de la réforme électorale. Mais là n'est pas le débat. C'était juste une précision. Si on peut revenir à...
Je ne peux pas faire le procès à quelqu'un sur sa bonne foi, c'est-à-dire je promets faire un mandat et après je ne le fais plus. Ce n'est pas inscrit dans notre constitution que lorsque un candidat et un président s'engagent à faire un mandat et qu'il ne le fait pas, qu'il faut le blâmer. Moi, je préfère encore cela à des pays où des gens enchaînent des décennies au pouvoir, à croire qu'en fait, ils sont les seuls ou bien le moment, elles sont les seules femmes à pouvoir faire des enfants intelligents. Moi, je suis profondément gêné par cela. Et je pense qu'en fait, qu'il faut aller à une inculturation de la démocratie dans nos pays, en Afrique. La démocratie, ce n'est pas africain, enfin, ce n'est pas secrété par notre vivre ensemble en Afrique. Autant avant la colonisation, il y avait forcément des méthodes de gestion de nos cités. Mais aujourd'hui, on nous impose la démocratie. Est-ce que la démocratie est nôtre? Je pense qu'il faut réfléchir à cela. Est-ce que vous avez observé avec moi qu'aujourd'hui, la communauté dite internationale est moins inspirée aujourd'hui pour condamner des maintiens de chefs d'État au pouvoir, est moins inspiré pour condamner des traficotages de constitution pour maintenir des présidents au pouvoir. Alors, je pense qu'il faut aller à une inculturation de la démocratie. Il faut voir ce qui correspond à notre réalité africaine dans la démocratie qui est née à Athènes en Grèce. Je pense que c'est peut-être... Il faut envisager des solutions dans ce sens-là.
Merci beaucoup, André Dossa. Liliane, je reviens avec Eric pour conclure sur ce sujet, de mon côté en tout cas. Eric, je parlais tout à l'heure peut-être d'un scrutin qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire politique du Tchad, parce qu'en réalité, on n'a jamais eu un scrutin avec autant de manifestations et une opposition, même si elle est pour certains divisée, mais qui semble quand même inquiéter le camp de Idriss Déby. Est-ce que cela pourrait marquer un tournant pour le Tchad?
Oui, en effet, c'est un tournant parce que j'évoquais le cas de la coalition Wokitama qui veut dire l'heure a sonné en arabe, composée des principales formations politiques de l'opposition, des acteurs de la société civile. Je pense que le Tchad est en train de vivre effectivement un tournant, même si Déby va être élu, c'est un secret de polichinelle. Les Tchadiens commencent par comprendre qu'il faut se battre pour réclamer leurs droits face à un président qui est arrivé au pouvoir par les armes et qui le dit, il l'a répété pendant la campagne électorale, il est venu au pouvoir par le sang, il n'est pas venu en bus au pouvoir. Face à un tel régime, je pense que le monde entier peut accorder donc ce bénéfice du doute au peuple tchadien de revendiquer ses droits. C'est un droit constitutionnel. On ne peut pas organiser des élections dans ces conditions, empêcher que les voix critiques ne puissent faire valoir leurs droits. Donc je pense que Idriss Déby, certes, a des partisans, mais il faudrait vraiment inclure toutes les sensibilités politiques du pays pour que les Tchadiens puissent décider. Et si Déby est élu à la loyale, Mais je pense que ceux qui n'auront pas voté pour lui vont se plier dans ces conditions. C'est vraiment une élection armée. Hein, c'est une élection armée parce que N'Djamena est quasiment
sous état de siège.
Militarisé. Nous sommes dans une sorte d'état de siège et ce n'est pas cela la démocratie.
Merci.
Lui est venu au pouvoir, ça fait 30 ans. S'il est vraiment populaire, ben, qu'il laisse les Tadjiens s'exprimer et s'il gagne, ben, tout le monde.
Merci
va
beaucoup, Eric.
Ce n'est pas le cas.
On va à présent écouter les questions et réactions de nos auditeurs avec Didier Ladislas Landau.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Libération de Gbagbo et de Blaise Goudé, Emmanuel Dossouvi pense que les 10 ans passés par les deux accusés à la CPI ont été vains. Étant donné que Charles Blaise Goudé et Laurent Gbagbo sont acquittés, notre internaute de Cotonou au Bénin demande qui sont les responsables des crimes qui ont été commis. Onésime Afanik lui demande à notre invité ce qu'il compte faire pour laver son honneur et s'il acceptera de travailler avec le président Ouattara si ce dernier lui tendait la main. Pour Alafi Bokassa, le retour de Gbagbo et de Blaise Goudé apaisera la tension politique en cours en Côte d'Ivoire. Présidentielle au Bénin pour Ong Ezop, les élections au Bénin auront bel et bien lieu, mais dans des conditions qui n'honorent pas le pays. Présidentielle au Tchad, archiduc Théodore de N'Djamena estime que le président Idriss Déby s'accroche au pouvoir juste pour assurer ses arrières et protéger ses proches. Merci à nos fidèles auditeurs. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Afrique-Africa Radio. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous, Didier Ladislas Landau. On va donner une minute à M. Blaise Goudé pour conclure. Et je pense que sur le rapprochement avec le président Ouattara, vous avez répondu.
Bien, merci. J'ai tout suivi. Au-delà de ma personne, un problème africain est posé. Le problème de la démocratie, le problème de l'alternance. Et en ce qui me concerne, je sors d'une procédure longue de plusieurs années. 7 ans. Ce n'est pas 7 jours, ce n'est pas 7 semaines, ce n'est pas 7 mois, c'est 7 ans de ma vie. La prison, ce n'est pas qu'un lieu d'enfermement. C'est aussi un lieu d'enseignement.
Comment comptez-vous justement laver votre honneur? Demandait un auditeur.
Mon honneur a été lavé devant le monde entier par la Cour pénale internationale qui m'a blanchi, qui m'a reconnu innocent. Déjà, mon honneur a été lavé devant une juridiction internationale. Il n'y a pas 1000 manières de laver l'honneur. Devant toutes les caméras du monde, mon honneur a été lavé. J'ai fait l'objet d'un procès et j'ai été reconnu innocent. Déjà, c'est un pas. Le deuxième pas, c'est maintenant de faire en sorte de rapprocher les Ivoiriens de nouveau, de recoudre ce qui a été déchiré. Et c'est à cela que je vais participer une fois que je rentre en Côte d'Ivoire. Merci. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Et je pense que le moment est arrivé pour qu'on puisse faire la paix en Côte d'Ivoire.
Merci Charles Blaise Goudé, vous étiez notre invité cette semaine, ancien ministre ivoirien de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi et ancien leader des jeunes patriotes. Vous étiez en ligne de La Haye aux Pays-Bas. Merci au confrère André Dossa, rédacteur en chef de la chaîne Kana 3 à Cotonou au Bénin et à Eric Topona, journaliste à Radio Deutsche Welle à Bonn en Allemagne. Vous pouvez écouter cette émission ou la réécouter sur nos sites internet africaradio.com et bbcafrique.com et partagez vos avis avec nous sur la page Facebook de l'émission facebook.com/débat BBC Africa. Chargé de production, Didier Ladislas Landau, réalisation à Paris, Hugo Vallière, à Dakar, Patrick Tévy. Merci à vous de nous avoir suivis. Saint-Tiche Mantar Tomté, c'est avec plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine pour un autre numéro du débat BBC Africa Radio.
Un plaisir partagé, Lilia.
Bon week-end.